Nous en sommes au dernier jour de la retraite. Et j'aimerais aujourd'hui lire et commenter un court texte de M. Lowe. À mes yeux, il s'agit de l'un des plus beaux textes écrits par Albert au sujet de la pratique du zen. Il commence par les mots suivants. Nous pratiquons le zen, mais vient un jour où l'on voit bien qu'en définitive, nous ne pratiquons pas le zen. C'est simplement la totalité qui se fait connaître elle-même. C'est comme se tenir debout au milieu d'une rivière peu profonde, le regard tourné vers l'eau qui s'écoule sans cesse devant soi. Cette eau qui s'écoule, ces milliards de gouttes d'eau, ce sont toutes nos expériences. Comment pourrait-on en saisir ou en retenir quoi que ce soit? C'est comme essayer de saisir de l'eau avec ses yeux ou ses oreilles. L'on voit bien les reflets du soleil sur l'eau et l'on entend bien son ruissellement. Mais comment pourrait-on les garder avec soi? Toutes les expériences que nous vivons sont impermanentes et dénué de toute existence durable ou autonome. Tout ce que nous percevons par l'entremise de nos sens change sans cesse. Souvent, lorsque l'on commence à pratiquer le zen, l'on croit qu'il nous faut tourner notre regard vers l'intérieur pour se rapprocher de la vérité ou se trouver soi-même. Mais c'est une illusion. Notre vie intérieure est elle aussi une rivière qui s'écoule sans cesse. Nos pensées, nos intuitions, nos rêves, ce que nous ressentons, nos sensations, nos sentiments, nos émotions, tout cela s'écoule sans cesse. Ce que l'on appelle le monde extérieur ou le monde intérieur, tout cela s'écoule sans cesse dans cette rivière qui elle-même ne cesse de changer. Et tout l'univers ressemble aussi à une immense rivière qui ne cesse jamais de s'écouler. Nous nous tenons toutes et tous debout au milieu d'une rivière peu profonde. C'est notre propre vie. Et nous ne pouvons rien retenir de tout ce qui apparaît en nous et autour de nous. Où donc pourrez-vous jamais trouver ce que vous êtes dans ce flot continuel d'expérience? Dans quelle direction tournez votre regard pour vous trouver vous-même? Qui êtes-vous? Ici même, lorsque vous entendez ma voix, y a-t-il quelqu'un qui entend? Ou est-ce seulement entendre? Lorsque vous respirez, y a-t-il quelqu'un qui respire ou est-ce seulement respirer? Lorsqu'une pensée traverse votre esprit, y a-t-il quelqu'un qui pense ou est-ce seulement penser? Regardez bien, regardez bien. Y a-t-il quelqu'un? Quelqu'un est-il là? Comme le dit si bien Albert, nous croyons aisément que nous pratiquons le zen. Nous sommes si intimement convaincus d'être quelque chose. Mais si vous regardez bien, vous pouvez voir que même ce sens d'être quelque chose, ce qu'Albert appelait le sens du soi, the sense of self en anglais, est discontinu. Cela n'est pas toujours présent. Cela aussi apparaît et disparaît. Cela aussi vient et va. Comme tout ce qui s'écoule dans cette rivière peu profonde où nous nous tenons debout. Si vous vous cherchez dans tout ce qui s'écoule en vous et autour de vous, vous ne vous trouverez jamais. Vous devez tourner votre regard dans une toute autre direction. Vous devez apprendre à regarder en amont de tout ce qui s'écoule, vers la source même de la rivière que vous êtes. Rappelez-vous Maître Quinn nous disant, mais si trouvant la source, nous prouvons notre vraie nature. Albert poursuit en disant, vient un jour où l'on voit bien qu'en définitive, nous ne pratiquons pas le zen. C'est simplement la totalité qui se fait connaître elle-même. Nous ne vivons pas dans une totalité qui se trouverait quelque part à l'extérieur de nous. Nous sommes la totalité. Et comme le dit si bien le maître Shan Guoku, ce que nous sommes est inconcevable. Et c'est là notre grande liberté. Lorsque l'on tourne son regard derrière soi, pour ainsi dire, vers la source qui se trouve en amont de la rivière où nous nous tenons debout, l'on ne découvre rien. Cela ressemble à un océan de silence. C'est pourquoi la réponse à la question « Qui suis-je ?» reste toujours muette. La totalité que nous sommes est inconnaissable. Elle n'a aucune forme. Et pourtant, elle apparaît. Vous n'avez aucune forme, disait notre vieux maître, mais vous vous manifestez sous toutes les formes. Et maître Yakujo en parle avec les mots suivants. Notre nature véritable ne discrimine pas, mais profite des fleurs jaunes ambiantes pour se manifester. Elle profite aussi des bruits de la rivière, des reflets sur l'eau, du ruissellement du vent dans les feuilles des peupliers faux-trembles, de la fraîcheur de l'eau sur nos mains et de notre vie entière pour se manifester et se faire connaître. À travers toutes nos illusions d'être ceci ou cela, à travers toutes nos pensées et en chacune de nos émotions et sensations, dans toutes nos perceptions, en tout ce que nous voyons ou entendons, à travers tout ce qui est, c'est elle qui se fait connaître. Dilgo Khyentse Rinpoche, le maître de Matthieu Ricard, nous dit « L'esprit n'a ni forme, ni couleur, ni substance. Voilà pour son aspect vide. Mais il peut connaître les choses et percevoir une variété infinie de phénomènes. C'est son aspect lumineux, c'est-à-dire connaissant, l'union inséparable de la vacuité et de la luminosité constitue ce que l'on appelle l'esprit originel, immuable. Nous ne pratiquons pas le zen. C'est simplement la totalité qui se fait connaître. Un jour, lors du cinquième soir d'une retraite de 6 jours, assis avec douleur en zazen, une voix se fait entendre en moi. Une sorte de cri sans appel. Outside. Aussitôt, la douleur, les pensées, toutes les autres sensations, la respiration elle-même, semblent basculer à l'extérieur. Je n'y suis plus mêlé. Ce n'est pas que tout disparaît ou que je sois dépossédé de quoi que ce soit. Ce n'est pas une dépossession, mais plutôt une non-possession. Là où il y a quelques instants, tout semblait être à moi, il n'y a maintenant plus rien. Tout a basculé à l'extérieur, pour ainsi dire. Tout, la douleur, les pensées, les sensations et la respiration, tout continue à s'écouler. Mais je ne suis plus là pour en réclamer la moindre chose. Cela semble se passer ailleurs qu'en moi. Je n'en suis plus affecté. Le miroir, dit-on, n'est jamais affecté par les reflets qui apparaissent et disparaissent en lui. C'est comme si tout à coup, le miroir s'était vidé de tous ses reflets. Il reste une présence subtile, qui ne possède rien, et à laquelle pourtant, il semble bien que rien ne manque. Quelques instants plus tard, la cloche sonne. Tous se lèvent. Nous nous saluons, et le kin-hin commence. Rien n'a jamais cessé de s'écouler, et rien n'a été retenu. Albert continue en disant: la résistance à la pratique vient de moi, pratiquant. Moi, qui essaie de détourner la pratique pour me rendre heureux, me libérer de la souffrance. Je veux atteindre l'éveil. C'est ce qui rend la pratique dure, aride et pénible. Nous le savons tous, n'est-ce pas? Nous arrivons au zen pour toutes sortes de raisons, mais nous y venons la plupart du temps en cherchant quelque chose. Nous espérons trouver ce quelque chose que souvent nous n'arrivons peut-être pas clairement à définir, mais dont nous ressentons le manque intérieur, et nous espérons le trouver en nous engageant dans une pratique spirituelle. Et nous sommes sincères. Nous voulons de tout cœur, et peut-être aussi malgré quelques appréhensions, découvrir ce qu'est le zen. Comment méditer selon cette approche, en apprendre les façons de faire et les appliquer le mieux possible dans notre propre vie. Nous ne savons peut-être pas clairement ce que nous cherchons, mais nous avançons dans l'espoir que le zen nous permettra d'y voir plus clair. C'est le début de notre pratique. Nous pratiquons le zen, comme l'écrit M. Lowe. Notre pratique est alors le plus souvent intentionnelle, soumise aux objectifs que nous poursuivons. Encore ici, ces objectifs restent parfois vagues, et peut-être n'arrivons-nous pas à les préciser. Mais l'on voit assez tôt que le zen nous aide à calmer notre agitation et à être plus attentifs dans notre vie quotidienne. Notre engagement et nos efforts portent fruit. Nous avons alors presque naturellement tendance à croire que tout cela dépend de nous et que si nous persistons dans nos efforts et poursuivons notre pratique avec détermination, nous récolterons encore davantage les bienfaits de notre pratique spirituelle. Nous devenons avides des bienfaits et des délices de la vie spirituelle, comme le dit Saint Jean de la Croix. Nous nous fixons des buts, des objectifs à poursuivre. Nous nous imposons des disciplines. Notre pratique est sincère, mais désorientée. Elle est intentionnelle et nous lui imposons de suivre la route de nos attentes et de nos préférences. Et c'est très bien ainsi. C'est un chemin spirituel que tous et toutes nous devons parcourir pendant une plus ou moins longue période. Ce chemin nous mène toujours à de nouvelles impasses et il nous faut, si nous sommes sincères avec nous-mêmes, le parcourir jusqu'à ce qu'enfin notre résistance cède. Elle le fera d'elle-même, en son propre temps et de son propre accord. Ici, vous ne pouvez rien précipiter. Tant que vous tenterez de le faire, vous tournerez en rond au fond d'une nouvelle impasse que vous créez vous-même. Et comme le disait souvent M. Lowe, la seule façon de sortir de l'impasse, c'est de passer à travers. En d'autres mots, il ne sert à rien de vouloir la contourner ou l'éviter. Si vous y êtes, vous y êtes. Restez-y de tout cœur. C'est le chemin à suivre. Soyez sincère avec vous-même. ayez la bonté de ne pas vous mentir en prétendant que vous savez bien, puisque vous l'avez lu quelque part, qu'il n'y a pas vraiment d'impasse sur le chemin spirituel. Avancez plutôt avec humilité, sans vraiment savoir où vous allez. Nous savons tous et toutes combien il peut être difficile et douloureux de s'abandonner avec confiance à notre pratique et de la laisser elle-même nous libérer de nos illusions. Albert continue. La faim et la soif que nous ressentons dans la pratique vient de la totalité se faisant connaître. Une grande différence existe entre cette soif naturelle et l'ambition de parvenir à l'éveil. La totalité inconnaissable que nous sommes n'existe pas quelque part dans l'absolu, comme dans une sorte de ciel ou un quelconque paradis. Elle n'a aucune existence, aucune forme, et pourtant, elle apparaît. C'est notre soif elle-même, notre faim de la vérité qui nous en parle. C'est une soif naturelle que l'on ne peut forcer. Elle jaillit spontanément d'elle-même, en son propre temps, et de son propre accord dans notre vie. Elle vient du cœur de notre pratique, mais dans la seule mesure où s'effacent peu à peu nos revendications et nos espoirs. Encore ici, ne faites cependant pas l'erreur de croire que vous pouvez intentionnellement éradiquer vos revendications et vos espoirs face à la pratique. Vous ne le pouvez pas. Tout ce que vous faites est inutile. Dans les premiers temps de ma pratique auprès d'Albert, je caressais l'espoir de trouver de l'or, mais sans rien changer à ma vie. Or, c'est en me délestant, bien malgré moi, de toutes mes prétentions et de tous mes espoirs, en laissant ma vie changer librement, qu'un peu d'or est apparu. C'est comme nager dans une soif qui grandit sans cesse en soi. Dans la mesure où notre foi s'élève, l'on consent à être un avec tout ce qui est. On ne demande rien d'autre que ce qui est là, sous nos pieds, ici même, maintenant. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Cette prière, adressée par un centurion romain à Jésus dans l'Évangile selon saint Matthieu, nous indique la voie à suivre. Il nous faut déposer au sol toutes nos armes, cesser de lutter en vain, croyant que nous allons y arriver. Il n'y a pas de vous pour y arriver. C'est simplement la totalité qui se fait connaître. Et vous ne pourrez jamais la saisir ou vous en emparer comme j'en ai si longtemps rêvé. Louis n'y arrivera jamais, me disait Albert. Nous ne nous délestons pas de nous-mêmes par nous-mêmes. Il nous faut apprendre à laisser la soif de vérité que nous ressentons apaiser peu à peu toutes nos ambitions spirituelles et les abaisser en nous. Toutes nos ambitions de parvenir à l'éveil sont des impasses créées par notre propre avidité. Mais il ne sert à rien de les nier ou de tenter de s'en détourner. Si elles vous habitent, alors laissez-les vivre en vous. Regardez-les droit dans les yeux. Ne les repoussez pas. Poursuivez-les. Voyez où elles vous mènent. Puis laissez-les se libérer d'elles-mêmes. Encore ici, laissez-moi relire ce merveilleux passage du nuage des connaissances. autant tu veux et désires la vérité, autant tu l'as, et ni plus, ni moins. Pourtant, elle n'est ni volonté, ni non plus désir, mais une chose que tu ne sais pas quoi, laquelle t'attire à vouloir et désirer ce que tu ne sais pas quoi. Mais ne t'inquiète pas, je t'en prie, si tu ne comprends pas. Au contraire, continue à vouloir et désirer, et va de l'avant toujours plus, en sorte que tu en sois toujours plus capable, et encore toujours plus. Laisse cela agir en toi, et te conduire où il lui plaît. Qu'il te suffise de te sentir mu et poussé dans ta volonté et ton assentiment par cette chose que tu ne sais pas quoi et dont tu ne sais rien. Cette chose que tu ne sais pas quoi et dont tu ne sais rien, laisse cela agir en toi et te conduire où il lui plaît. La totalité inconnaissable que nous sommes, c'est notre soif même de la vérité qui nous emparve en cet instant même. Dis seulement un mot, parle-moi, et je serai guéri. Et Albert écrit enfin, « Depuis toujours, tous les êtres sont Bouddha. Et pourtant, nous courons après la vérité, nous souffrons pour elle, nous l'appelons en suppliant. Il n'est pas question de cesser d'appeler, de tenter d'empêcher la quête ou même de calmer l'agitation. Il s'agit de voir que notre cri est déjà la voix du Bouddha, notre angoisse, l'expression du Bouddha, notre agitation, l'énergie du Bouddha. Il n'est pas question de cesser d'appeler, de tenter d'empêcher la quête ou même de calmer l'agitation. Encore ici, cesser d'appeler, empêcher la quête ou calmer l'agitation, c'est tenter d'étouffer la soif naturelle qui monte en nous, reprendre le contrôle et soumettre la pratique aux exigences et aux prétentions de cet imposteur qui nous afflige depuis des temps immémoriaux, comme le dit si bien Mathieu Ricard. Cet imposteur, c'est moi. Moi qui veux tout soumettre à ma volonté et plier le monde à mes désirs. Moi qui mendie l'affection et l'approbation d'autrui pour en nourrir ma vanité affamée. Moi qui vacille constamment entre qui je suis et ne devrais pas être et celui que je ne suis pas et que je devrais être. Moi qui suis comme un chirurgien blessé, tentant sans cesse de guérir les blessures qu'il s'inflige. Cet imposteur veut cesser d'appeler. Il veut empêcher la quête et calmer sa propre agitation. Mais qui est-il? Qui est cet imposteur qui veut m'arracher mes cris, m'empêcher d'avancer et calmer mon cœur qui s'affole? Qui suis-je? Qui est-il? Y a-t-il quelqu'un? Quelqu'un est-il là? Nous en sommes au dernier jour de la retraite, et dans quelques heures, nous allons quitter le centre et rentrer à la maison. L'on dit parfois qu'une retraite ne se termine jamais. Elle se poursuit dans notre vie quotidienne. Et l'on pourrait même tout aussi bien dire qu'elle vient de notre vie quotidienne. C'est là qu'elle a commencé. C'est là que se trouvent les racines de notre pratique. Dans les contradictions de notre propre esprit, dans cette sorte de malaise intérieur qui nous accable parfois, et aussi dans ces élans vers l'unité qui montent en nous. C'est là que cette retraite que nous allons bientôt quitter a commencé, et c'est là que nous allons la retrouver en revenant vers nos proches, nos familles, nos amis, nos collègues. C'est auprès d'eux que nous allons continuer à la vivre. Si vous le voulez bien, commençons par revenir avec reconnaissance et gratitude vers tous ceux et celles qui ont pris soin des choses pendant notre absence et nous ont permis d'être ici au cours des 7 derniers jours. Rappelez-vous, au centre, nos chants avant les repas du matin et du soir commencent par les mots suivants. Nous devons ce repas à des êtres sans nombre. N'oublions pas leur labeur. Lorsque l'on médite sur ces paroles, l'on voit bien que la gratitude qui s'y exprime remonte jusqu'au début du monde. C'est la même chose ici, et nous pourrions tout aussi bien chanter « Nous devons notre retraite à des êtres sans nombre. N'oublions pas leur labeur. » Encore ici, lorsque l'on médite sur ces paroles, l'on voit d'abord nos proches, parents et amis, et tous ceux et celles qui nous ont aidés à être ici. Mais en regardant un peu plus loin, l'on voit le Bouddha lui-même, qui accueille la jeune mère éplorée, et Maître Joshu, qui sourit à son visiteur. Puis aussi notre bon maître Albert, assis à l'aube en méditation, sur une chaise droite, et maître Dogen, qui parle d'éveil, puis Mathieu Ricard, qui écrit un livre, que je trouverai des années plus tard, sur un bas rayonnage à cette île. Il y a aussi tous les bodhisattvas, et tous ceux et celles qui, par leur pratique personnelle de la foi, nous ont transmis, par-delà les millénaires, les enseignements qui nous guident. C'est avec un cœur ouvert que nous nous inclinons devant eux. Je vous souhaite de tout cœur de poursuivre votre pratique. Continuons, si vous le voulez bien, à pratiquer ensemble. Comme Jeff Shore nous l'a rappelé lors de l'une de ses visites. Vous avez la chance d'avoir une communauté bien vivante. Traitez-la avec respect. C'est une chose très précieuse. Merci d'avoir écouté avec tant d'attention.